MCI TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon début de semaine à chacun. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu un bon temps dans vos églises locales. Alors cette semaine, nous avons un invité avec nous, un docteur de la parole qui est avec nous. C'est un privilège, vous le connaissez certainement très très bien. C'est le docteur Jonathan Berceau. Bonjour Jonathan.
Bonjour et bonjour chez vous.
On est content de te retrouver à la maison. Puisque tu as fait partie pendant des années de l'équipe des chroniqueurs de Bonjour chez vous. Donc quand tu viens, c'est un peu comme si tu viens à la maison.
Oui, c'est ça. Puis bon, actuellement, je suis là, mais dans un mode, on va dire, backstage, un peu caché avec ma Bible.
Exactement.
Et ça va ressortir à un moment donné.
Exactement, parce que tu fais plein d'enregistrements, mais pour l'instant, ils sont encore cachés. Tout
c'est
à
ça.
Fait. Et tu nous aides énormément pour ma Bible, tout à fait. Mais pas seulement, t'es un homme très occupé. Allez, je fais ton CV.
Oh, ça va.
J'aime bien faire
long,
ça, moi. Moi, j'aime bien.
Bon, c'est un gros CV.
Je me suis inspirée. J'espère que ton site est à jour. Hein.
Est-ce que tu commences avec le grand-père
ou... On pourrait père, grand-père, époux, effectivement. Non, je suis restée dans notre domaine de prédilection. Tu es le président et également enseignant à l'IBQ, à l'Institut biblique du Québec et à l'Université de Laval, ici, au Québec, comme je l'ai dit. Enseignant à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé, au Togo et aussi à Kinshasa. Mm-hmm. T'es un homme d'Afrique. Hein. T'es né en Afrique.
Je sais
pas si tout le monde le sait,
oui.
Au Sénégal, exactement. Mm. Tu es également enseignant et directeur du programme francophone du doctorat au PASS. Comment on le prononce?
PASS. Pas, ça veut dire le chemin en anglais, mm-hmm. Mais c'est le Pan African Theological Seminary. Tu vois, mon anglais n'est pas encore là. Hein.
Ah, mais ça va, tu te débrouilles bien quand même. Mais c'est la branche francophone dont tu t'occupes, donc tout va
c'est
bien.
Ça. Moi, c'est mon ministère qui est juste en français, never in English.
Never in English. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Entre deux voyages, tu es un homme occupé, mais c'est un plaisir de t'accueillir.
Je prends l'avion vendredi pour Lomé.
Effectivement, donc la preuve que tu es un homme occupé. Et nous, aujourd'hui, on va te faire travailler toute cette semaine. On a décidé qu'on te faisait bosser. On profite de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, on va parler, en fait, de la preuve. Quelle est la preuve que Dieu existe? Et toi, dans la rubrique Réponse d'expert, tu nous diras qu'est-ce qui prouve spécifiquement la véracité de la Bible?
C'est ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui prouve, hein? Parce que il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui ont la foi, mais il y a aussi ceux qui sont de mauvaise foi.
Oh,
c'est-à-dire qui refusent de croire devant peut-être une preuve ou une évidence. Donc, c'est ça, on va voir un petit peu tous les éléments ici qui viennent alimenter le fait que oui, la Bible est vraie et on a raison de croire.
Génial, on a hâte de t'entendre sur ça. T'as hâte, Aurélie?
Ah, bien sûr.
Tu vas bien, je t'ai même pas salué, chère
ça
Aurélie.
Ça va très bien, il n'y a pas de souci.
Toi, tu vas faire un témoignage tout à l'heure, ce sera un témoignage de qui?
Eunice de la France, elle nous a envoyé son témoignage. On va voir comment Dieu l'a aidé par rapport à une situation administrative.
Ah, les blocages administratifs, ça paraît pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça peut être lourd
c'est
et
vrai,
stressant.
Compliqué.
Ah oui, c'est quand on a besoin de miracles dans ce domaine-là, c'est même oppressant parfois les blocages administratifs.
Oui, je suis passée par là.
Tu es passée par là, tu sais ce que c'est. Bon, en tout cas, on va voir ensemble, on va prendre le temps de s'arrêter et puis de se poser cette question, qu'est-ce qui prouve l'existence de Dieu? Et c'est parti pour la pensée du jour.
Donc, qu'est-ce qui prouve l'existence de Dieu? C'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que Dieu se révèle, il ne se prouve pas. C'est pas une expérience de laboratoire. Dieu, il se révèle et on connaît Dieu par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors que tu crois qu'il existe, là, tu vas pouvoir le découvrir, tu vas pouvoir découvrir des choses de Dieu que tu ne connaissais pas encore. Et il y a beaucoup de personnes, comme le pasteur Jonathan disait tout à l'heure, il disait qu'il y a des personnes qui ont juste la mauvaise foi, qui refusent de croire. Et on voit ça vraiment dans le monde, il y a des personnes qui vont refuter que Dieu existe, mais il n'y a rien aussi qui va prouver que Dieu n'existe pas. Et si Stéphanie Rida était sur ce plateau, elle vous dirait que même toute la science pointe vers Dieu. Amen. Et elle aurait beaucoup plus d'explications que moi sur plusieurs théories scientifiques. Maintenant, qu'est-ce qui va nous prouver à nous que Dieu existe? La Bible dit dans Psaume 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans Romains 1 au verset 20, la Bible dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. » Donc rien qu'en regardant la création, comment les choses sont agencées sur la terre, comment les choses sont organisées, comment les choses parfois nous semblent tellement immenses et grandes, mais parfois tu regardes tout ça et tu te dis « Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. » Et la Bible l'atteste, la création, alors qu'on la regarde, elle nous montre la grandeur de Dieu. Comment on sait aussi? Ben, on le sait par la foi. Comme on a vu tout à l'heure, alors que tu t'approches de Dieu avec foi, ben, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez juste prier et dire, Seigneur, j'aimerais que tu te manifestes à moi. J'aimerais que tu te montres, que tu me montres que tu existes. Et tu vas voir que tu vas vivre quelque chose d'intérieur qui te concerne, qui va te montrer que Dieu, il est bel et bien présent. Et beaucoup de personnes ont été touchées par l'amour de Dieu et l'ont vécu, en fait, comme une expérience personnelle et intérieure. Et tu sais que, en fait, ça ne peut être que lui. C'est pas quelqu'un, c'est Dieu vraiment qui l'a fait. Et pour d'autres cas aussi, pour d'autres cas, Dieu va se révéler aussi par des expériences surnaturelles. Et beaucoup de personnes, mais vraiment, sur la terre, ici, moi, je connais plein de gens, c'est parce qu'ils ont vu un miracle. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose de surnaturel qu'ils se sont dit, waouh! Dieu, il existe vraiment, il peut vraiment le faire. Et ça, dans la Bible, on le voit aussi, ceux qui étaient dans la barque vont se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ils ont vu quelque chose qui était ouf, quoi. Jésus a commandé les vents. Ils se sont demandé « Mais qui est cet homme qui commande même au vent et les vents lui obéissent ?» Et là, ils ont dit « Ça ne peut être que Dieu qui fait ces choses-là ». Donc, beaucoup de personnes, c'est aussi comme ça qu'elles vont croire en la puissance de Dieu. Et pour finir ma pensée, j'aimerais t'encourager, toi qui nous écoutes aujourd'hui, à ne pas faire partie des personnes dont le but est d'argumenter. Tu vois, parce que parfois qu'on a des thèmes comme ça, il y a beaucoup de personnes, leur but c'est juste d'argumenter, de prouver tout au monde entier. Dieu ne s'impose pas. Ça, on le voit dans la parole. Dieu ne s'impose pas, en fait, aux gens. Dieu, il vient, il frappe à la porte et puis, si tu veux ouvrir, ben, tu l'ouvres, en fait. Donc, je t'encourage à ouvrir ton cœur, toi qui nous écoutes aujourd'hui, à Dieu et à lui dire, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi que tu existes et tu vas vivre des choses personnelles qui vont te montrer à toi que c'est vrai, en fait.
Amen. Merci Aurélie. J'aime ce que tu dis. Oui, Dieu ne se prouve pas, il se révèle. Et personnellement, mes parents m'ont enseigné la foi chrétienne depuis que j'étais enfant. Et j'avais une certaine connaissance de Dieu, on va dire, mais pas pour autant que j'étais convaincue de son existence. Et je me souviens très bien, j'avais 18 ans, mon frère m'a invitée dans une église. Je suis allée pour lui faire plaisir et qu'il me laisse tranquille. Et au moment de l'appel au salut, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie la présence de Dieu. Et ça m'a suffi. Ça a été ma révélation. Je savais que Dieu était vivant, qu'il existait. Je n'ai rien vu. J'ai rien eu à voir, à comprendre. C'est une expérience personnelle où sa présence est venue sur moi. J'ai pas été visitée, j'ai pas tremblé, j'ai pas sauté, j'ai pas pleuré. C'est juste une paix incroyable qui est venue sur moi et je savais pertinemment que c'était Dieu. Ça m'a suffi. Peu importe les arguments qu'on m'aurait donnés, je savais que Dieu existait. Et en fait, on a tous notre petit cheminement. Et Thomas, dans la Bible, a eu son propre cheminement aussi. Et lui, il a eu besoin de voir. Dans Jean 20, au verset 29, vous le savez, Thomas, un des disciples de Jésus, il a marché avec Jésus, il a tout vu de Jésus, il a vu ses miracles, il a tout vu. Et au moment où Jésus ressuscite et qu'il vient voir ses disciples, Thomas est absent. Et il va arriver juste un peu plus tard. Et Thomas va dire, j'ai besoin de le voir. Si je mets pas ma main dans les trous de ses mains, dans son côté, je croirai pas qu'il est ressuscité. Et Jésus va lui dire, dans Jean 20, verset 29, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Jésus faisait référence à cette génération dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire parce que Jésus, en fait, effectivement, se révèle à nous, tout simplement, personnellement.
Ça, c'est une bonne question de vouloir des preuves. Ça me rappelle au siècle passé, quand j'étais un peu plus jeune.
On remonte le temps.
C'est ça, hein, ça dans les années...
Dans ton grand âge avancé.
Dans les années 80, on faisait de l'évangélisation à l'université, sur le campus universitaire. Et il y avait deux jeunes qui étaient étudiants en mathématiques. Donc sciences pures, cartésiens, pour eux, hein, c'est la science, c'est la preuve, c'est la démonstration. Mmh. Et ils étaient intéressés par le témoignage que l'on pouvait apporter. Et je me souviens d'un des deux jeunes, les deux sont pasteurs maintenant, qui disait, mais prouve-moi, hein, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe ? Puis à un moment donné, j'ai dit, je peux pas te le prouver, mais tu peux faire une chose. Quand tu rentres chez toi, dans ta chambre universitaire, eh ben, tu peux simplement dire, ben, Dieu, si tu existes, montre-le-moi, prouve-le-moi. Mm-hmm. Elle dit, oui, mais s'il n'existe pas, tu n'auras pas de réponse. Hein.
Voilà. Ça sera
réglé. À un moment donné, tu as quoi à perdre à essayer. Et il dit que le témoignage qu'il nous a donné après, c'est que dans sa chambre d'étudiant, il a simplement demandé, et il dit après, je ne peux pas vous dire vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une lumière, il n'y a pas eu un ange qui est descendu, une voix qui sort avec beaucoup d'écho et de réverb. Il n'y a pas eu tout ça. Mais il dit, mais au fond de lui-même, il dit, j'avais la certitude, l'assurance, il était là, il était présent, je savais qu'il existe.
Magnifique.
Pas quelque chose qu'on a pu démontrer avec toutes sortes de schémas, de démonstrations mathématiques, mais c'est du vécu, c'est Dieu qui s'est révélé à lui.
Magnifique.
Parce qu'il l'a cherché.
C'est ça. Et je pense que la clé est là, en fait. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Combien de témoignages, même de personnes musulmanes qui n'ont jamais été enseignées, même sur le Dieu des chrétiens, sur Jésus, et Jésus se révèle même des fois en personne à eux.
Ouais. Mm-hmm. Je ne sais pas si je peux citer de la science pure ici, Descartes, on va dire, c'est celui qui va nous dire que, là, ça prouve, on connaît le fameux cogito ergo sum.
Bien sûr, je le connais tout à fait.
Je pense donc je suis.
Merci Aurélie.
Mais Aurélie, est-ce que tu sais la phrase qui est juste avant et la phrase qui est juste après? La phrase qui est juste avant, donc faut que je le lise parce que mon latin est un peu rouillé. C'est dubito ergo cogito, c'est je doute, donc je pense.
Oh.
Donc la phrase d'après, je pense, donc je suis.
Okay.
Mais on oublie de citer la troisième phrase. Mm-hmm. C'est Descartes, c'est pas moi, c'est Descartes, vous pouvez aller vérifier. Il dit, sum ergo Deus est, je suis, donc Dieu existe.
Ben ça change tout.
Et Descartes qu'on dit, mais c'est lui qui nous dit que Dieu, je pense, donc je suis, Dieu n'existe pas, il va dire, mais si j'existe, c'est parce qu'il y a un Dieu.
Voilà, Jonathan, tu nous as tous cloué le bec.
C'est Descartes.
C'est fort, hein, c'est fort. Et là, tu viens de donner des arguments exceptionnels. Hein.
Ouais.
Mais t'en as d'autres, et je veux te laisser la parole, parce que là où on doute aussi, bon, on peut douter de l'existence de Dieu, mais on peut douter de l'existence de la Bible, de la véracité de la Bible, un livre écrit par des hommes, retraduit encore et encore, qui date de siècles, et donc on peut se perdre là-dedans. Mais qu'est-ce qui prouve la véracité de la Bible? Eh bien, c'est la réponse à la question que Jonathan va répondre dans la rubrique Réponse d'expert. Je vais y arriver.
Bon, je ne sais pas si je suis expert, mais on va essayer.
J'ai fait ton CV, je pense que tu es qualifié.
On est toujours dans cette idée ici, prouver la véracité de la Bible, il faut accepter en fait la preuve. Parce que je pourrais venir avec toutes sortes d'arguments et de dire, voilà, la première preuve, la deuxième preuve, la troisième preuve, mais si vous refusez la preuve, vous allez dire, non, moi je ne crois pas. Donc il y a quand même une position, à un moment donné, un pas de foi. Mais néanmoins, les arguments que l'on pourrait donner, ça va être premièrement l'archéologie. L'archéologie, donc, va nous montrer que ce que dit la Bible, ça c'est vraiment accompli. Alors évidemment, moi l'archéologie, je suis toujours méfiant avec l'archéologie parce que on peut faire dire à un petit bout de pierre un peu tout et n'importe quoi. On voit des fois qu'on trouve un petit bout de, on voit une dent et on a un homme préhistorique. Bon, mais néanmoins, si on va vers les preuves irréfutables, si on peut dire ça comme ça, par exemple la stèle de Tel Dan qui est trouvée en Israël dans les années 90, sur lequel il y a la mention de la maison de David, Beth Dawid, la maison de David. Donc, il y en a même qui remettaient en cause l'existence du roi David, du royaume, ainsi de suite. Et là, on a une preuve archéologique où on a une trace ici que oui, la maison de David a existé. Et puis, on a une vieille stèle qui vient nous prouver ça. L'ossuaire de Caïphe. C'est une boîte à ossements découverte dans les années 90 aussi à Jérusalem et sur lequel il y a marqué le nom de Caïphe, donc qui prouve ici l'existence du Caïphe, le sacrificateur au temps de Jésus. On a la stèle de Pilate à Césarée, trouvée en 1961. Quand je suis allé à Césarée, j'ai vu cette stèle-là, mais en fait, c'est assez spécial parce qu'on a trouvé la stèle à Césarée, mais elle vient pas de Césarée parce qu'à l'époque, quand on construit une maison, une pierre, ça bouge. On peut détruire une maison et prendre la pierre d'une ancienne maison pour faire une nouvelle maison. Exact. Et c'est comme ça que cette stèle s'est retrouvée à Césarée. Mais néanmoins, sur cette stèle, on fait référence à Pilate. Mm-hmm. Donc, qui vient quelque part confirmer, eh bien, que ce que dit la Bible est vrai. On a le tunnel d'Ézéchias, hein, dont il est question dans le deuxième livre des Rois, chapitre 20. Ben, l'archéologie a trouvé ce tunnel ici, à Jérusalem. On a maintenant, du côté de l'Irak, on a les fouilles dures qui vont nous parler ici de cette ville florissante d'où est sorti Abraham, ou toutes sortes de tablettes, comme les tablettes de Nuzi ou de Marie, ou le code d'Hammurabi. Une petite anecdote, quand il y a quelques années, je voulais voir le code d'Hammurabi, il est au musée du Louvre à Paris, okay. Et j'arrive et la salle est fermée. Je ne peux pas voir le code d'Hammurabi. Quelques années plus tard, j'ai l'occasion de retourner au Louvre, j'ai dit je vais aller voir le code d'Hammurabi, la salle est fermée.
décidément.
Quelques années plus tard, c'est Anne qui allait avec quelques amis, et moi j'étais pas là, et là la salle était ouverte.
Elle dit, bon, c'est un signe, Jonathan, tu ne pourras pas la voir.
Elle dit, on va aller voir le code d'Hammurabi, prendre quelques photos, puis il y a une des femmes qui était avec Anne, il dit, c'est ça que le pasteur voulait voir, il y a quoi ici?
Je suis pas sûre qu'elle ait compris ce que tu voulais voir, effectivement.
Le code d'Hammurabi, c'est un très vieux code de loi. Et qui est construit de la même manière que les textes de loi de Moïse, hein, ça date à peu près de la même époque de Moïse, et qui nous montre que bon, bah, ce que Moïse a écrit est inscrit dans sa génération. Mm-hmm. Alors c'est ça les preuves archéologiques ou historiques. On a le fameux Flavius Joseph, donc un historien de la même époque que Jésus, un petit peu après Jésus, qui va nous parler de l'existence de Jésus. Mmh. Et il n'est pas chrétien, mais il va dire, oui, il y a un homme que l'on appelle Jésus, qui faisait des miracles. Donc on a un historien ici qui rend témoignage, comme un journaliste, de ce qu'il a vu. Donc ça, c'est les preuves, on va dire, tangibles, historiques. Alors, on a aussi les prophéties accomplies. Mmh. On a des prophéties généralement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, qui se sont accomplies. La prise de Babylone par Cyrus, hein, Ésaïe en avait parlé, et c'est effectivement ce qui va se passer. Mais je vais en prendre juste une de prophétie sur laquelle je vais passer un peu plus de temps. C'est la destruction de Tyr, de la ville de Tyr. Et ça, c'est dans Ézéchiel 26. Une prophétie qui annonce la destruction de la ville, mais avec des détails, en disant qu'il restera pas pierre sur pierre, et que cette ville ici allait finir comme un village de pêcheurs. C'était une ville qui était en deux morceaux, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle était au bord de l'eau, et il y avait une île, donc la ville c'était un morceau qui était sur cette île-là, donc ça protégeait évidemment des envahisseurs, et une partie qui était sur le bord du rivage. Alors, Tyr va être assiégé par Nebuchadnezzar au 6e siècle avant Jésus-Christ, et là pendant 13 ans ça va être assiégé, puis ils vont détruire la ville qui est sur le long du rivage, mais l'île avait résisté. Et c'est quelques années plus tard avec Alexandre le Grand que il va aller à la conquête un petit peu de cette ville, et pour pouvoir aller sur cette île, ils ont pris toutes les pierres de l'ancienne ville pour un petit peu faire comme une digue. Okay. Et donc toutes les pierres, toute la ville s'est retrouvée dans la mer. Oh. Et puis ils ont comme ça accompli la prophétie de ces pierres qui vont dans la mer. Et aujourd'hui, il y a plus d'île parce que cette digue, ça fait un amas de sable, ça fait une presqu'île maintenant. Mm-hmm. Et c'est un petit village de pêcheurs. Donc la prophétie ici s'est accomplie d'une manière parfaite. Et donc ça, bon, pour celui qui croit, on va dire, c'est une preuve. Le texte le dit, le prophète l'a annoncé, et voilà l'accomplissement de cette prophétie. On a évidemment toutes les prophéties messianiques, toutes les prophéties qui annoncent Jésus, qui vont s'accomplir, alors dans les moindres détails, que ce soit le lieu de sa naissance, hein, Bethléem, Ephata, que ce soit né d'une vierge, quand même assez spéciale, et effectivement, c'est ce qui va se passer, que ce soit la trahison pour 30 pièces d'argent, que ce soit la crucifixion, la flagellation, et même dans le psaume 22, il est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui. Notez bien que quand, à l'époque de David et des psalmistes, eh bien, on chante ce psaume, ils comprennent rien. Hein. Percé mes mains, percé mes pieds, ça veut dire quoi ça? Oui. Mais évidemment, à la crucifixion, on comprend, ça avait été annoncé. Mm. Le prophète a dit, c'est vrai, hein, oui. Puisqu'on parle de véracité ici. Ce que le prophète a annoncé s'est effectivement accompli jusqu'au moindre détail, sous le fait que les os n'ont pas été brisés, sous le fait que sa tunique n'a pas été déchirée, mais a été tirée au sort. Donc il y a toutes sortes comme ça de preuves, de réalisations, de prophéties. Là encore, il faut accepter de le croire et dire, ben oui, c'est annoncé. Parce que quand vous avez des centaines de prophéties qui se sont réalisées, bah, quelque part, on pourrait dire mathématiquement, on va dire, mais celles qui ne se sont pas réalisées, bah, j'ose croire qu'elles vont se réaliser. Mm-hmm. Et on a des prophéties qui concernent la fin des temps, qui concernent peut-être l'avenir, ce n'est pas encore réalisé, mais ça va se réaliser. Pendant des années, on lisait le texte concernant la restauration d'Israël. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, les chrétiens, pendant des siècles, ont dit, mais ça veut dire quoi ce texte ici d'un État qui est reconstruit ici, hein, dans Deutéronome 28 ou dans Ézéchiel 37. Et il va falloir attendre 1948, mm-hmm. quand les Juifs vont revenir et reformer la nation d'Israël. Ça, c'est un accomplissement d'une ancienne prophétie. Ça a mis des centaines d'années, mais ça s'est accompli. Et donc, sur cette base-là, on peut croire que le reste aussi va se réaliser. Mmh. À l'époque de Jésus, Jean-Baptiste a douté aussi. Thomas a douté, mais Jean-Baptiste lui-même, hein, pourtant Jean-Baptiste, est celui qui a préparé la venue du Seigneur. Et quand il est dans sa prison, parce qu'il a été emprisonné, il envoie ses disciples poser la question à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ou est-ce qu'il faut qu'on attende quelqu'un d'autre? Et la réponse de Jésus, on est dans Matthieu chapitre 2, hein, dans sa prison, donc Jean a entendu parler de ce que faisait Christ, il envoie ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et voilà la réponse de Jésus au verset 4, il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Vous voyez, la réponse de Jésus, quand on dit « donne-nous la preuve que c'est toi », eh bien, il dit « va dire ce que tu vois, ce qui se passe ». Et qu'est-ce qui se passe? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle. Et ici, Jésus non seulement dit « regarde tout ce qui se passe », mais il fait référence aux prophéties de Ésaïe 35, versets 5 à 6, et de Ésaïe chapitre 6, en disant « ça avait été annoncé et ça s'accomplit, c'est donc la preuve que je suis le Messie et que cette parole est vraie ». De la même manière aujourd'hui, à la fin par exemple de l'Évangile, Jésus dit « voici les signes ». Les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, qui vont attester et confirmer qu'ils ont raison de croire dans cette bonne nouvelle, eh bien, c'est des malades qui sont guéris, ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris, c'est parler de nouvelles langues, c'est toutes sortes de signes. Donc aujourd'hui encore, on peut trouver toutes sortes de preuves qui attestent de la véracité de la Bible, mais ouvre les yeux, regarde ce qui se passe autour de toi, regarde que ce qui est écrit, ça s'accomplit. C'est donc la preuve que c'est vrai.
Amen, amen. Merci Jonathan. C'est super intéressant de voir à quel point finalement la Bible se prouve, en fait, même par elle-même, en fait, elle s'accomplit sous nos yeux. Et effectivement, si on voit, si on veut voir, eh bien, on voit. Et bien entendu, tout ceci est une affaire de foi. Tu l'as dit Aurélie dans ta pensée. La foi, c'est ça, c'est croire. C'est croire ce que nos yeux peut-être ne peuvent pas toujours voir, bien que certaines choses se voient. On l'a vu, il y a des choses qui ne se voient pas. Mais c'est ça la foi. Et dans le domaine domaine de la foi, eh bien, il y a des exaucements aussi. Il y a des situations qui se passent et on va passer à notre rubrique témoignage.
En tout cas, Eunice, elle a vu Dieu
dans cette intervenir en tout cas
administrative. Et elle dit qu'elle est, elle est une étudiante en France qui vient de la Côte d'Ivoire. Elle a déposé son dossier de titre de séjour depuis le mois d'août et elle n'avait aucun retour. On parle de l'année dernière. Et elle dit que pendant la nuit de la percée, tu te rappelles, on a fait la nuit de la percée et le pasteur Atoms, il a prié pour les déblocages administratifs. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages qui viennent suite aux paroles que le pasteur Atoms a données. Donc, il a prié pour des déblocages administratifs et elle dit qu'elle sait que cette révélation-là, ça la concernait en fait. Et dès l'instant où elle s'est saisie de ça, elle a compris que Dieu était au contrôle de sa situation. Elle dit, on a fait ensuite une prière de déblocage des titres de séjour à laquelle je me suis connectée avec foi et j'ai cru que Dieu m'avait exaucée. Et elle nous raconte qu'après la nuit de la percée, elle a attendu 3 jours et elle dit, j'ai reçu mon titre de séjour, je rends toute la gloire à Dieu et je lui dis merci pour ses grâces. Donc elle a accepté la parole et 3 jours plus tard, la situation qui était bloquée depuis le mois d'août, la nuit de la percée, on a fait en janvier 2026, donc là, c'était bloqué depuis le mois d'août et là, après la nuit de la percée, 3 jours plus tard, ben, sa situation s'est complètement débloquée. Le Seigneur est intervenu, beaucoup peuvent penser que c'est un hasard, mais nous on sait que c'est la parole de Dieu qui est puissante et qui agit avec force.
Amen, merci Aurélie et merci Eunice. Si vous voulez vous aussi nous partager votre témoignage, eh bien un lien tout simplement emcitv.com/témoignage, n'hésitez pas à nous partager votre témoignage. Et on en a parlé en début d'émission, Jonathan, tu travailles activement au projet Ma Bible et grâce à votre soutien, chère famille des partenaires, eh bien ce projet avance, ça va de l'avant. Je sais que certains s'impatientent un peu, mais je vous assure, ça bouge beaucoup, ça avance beaucoup et de belles choses sont à venir. Et si vous avez aimé ne serait-ce que la petite rubrique que Jonathan a fait, ça vous donne un aperçu de tous les compléments d'informations que vous pouvez avoir, des choses auxquelles on n'a pas forcément accès. Avec Ma Bible, vous aurez des réponses à vos questions, bien sûr le texte biblique, mais également des commentaires bibliques, des réponses en vidéo, des études bibliques, des highlights pour vous encourager dans votre journée et tout un tas d'autres choses. Eh bien, on y travaille activement et je veux prendre le temps de remercier toute la grande famille des partenaires pour votre soutien précieux et vous encourager si vous nous suivez et vous ne faites pas encore partie de la famille des partenaires, vous étiez peut-être hésitant, eh bien aujourd'hui c'est peut-être le jour où vous faites ce pas et vous décidez de soutenir cette œuvre mensuellement. Pour ça, vous pouvez scanner le code QR qui apparaît à l'écran ou aller sur emcitv.com/don. Merci d'avance pour votre soutien précieux qui fait toute la différence. Jonathan, un grand merci pour cette émission. Et c'est pas fini, moi je te l'ai dit, on te fait travailler cette semaine. Moi j'ai profité, hein, toutes les questions que j'avais en réserve, que bon, je me sentais pas forcément à l'aise de traiter. Jonathan est là, on a un docteur qui est là, on va travailler fort.
On va faire du rangement.
Exactement. Alors demain, Christ est vivant pour toujours. Ah, j'aime cette déclaration. Et Jonathan, tu seras encore notre expert, tu le seras toute la semaine. Pourquoi la résurrection de Christ est-elle centrale pour les chrétiens? Tiens, c'est un élément hyper important. On aime le chanter dans nos chants d'ailleurs, mais pourquoi exactement c'est si important? Eh bien, on en parle demain. Ne manquez pas de vous connecter avec nous. Allez, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.